Bonjour, aujourd'hui sur RCF Pays d'Aude, dans Rencontre au fil de l'Aude. Je suis venue avec Jean-François Scalbert. Bonjour Jean-François.
Bonjour Florence.
J'ai rencontré Jean-François dans un lieu absolument improbable, c'est-à-dire dans un village qui s'appelle Cambieur, où il a créé à la fois son atelier et sa maison, et une galerie d'art. Jean-François, j'ai du mal à choisir le mot que je vais employer pour vous présenter parce que vous m'avez dit que si je dis artiste, vous vous sentez être un imposteur. Si je dis plasticien, c'est pas ça non plus. Si je dis découvreur, bricoleur.
Alors, oui, quand je dis que je me sens imposteur, c'est peut-être un peu exagéré. C'est quelque chose que je ressens dès le moment où on attribue une étiquette à quelqu'un. C'est pour moi, un policier, c'est pas un policier, c'est un être humain qui fait respecter la loi. Donc moi, je suis un être humain qui fait de l'art plastique à ses heures perdues, mais beaucoup d'heures perdues.
Donc je comprends bien que le côté figé vous déplaît, et ça tombe parfaitement bien parce que le musée que vous avez créé, la galerie que vous avez créée, qui s'appelle Musemu, M-U-Z-E-M-U, est une galerie d'art cinétique. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est que l'art cinétique ?
Pour faire simple, c'est de l'art en mouvement.
Donc, oui.
En mouvement physique, réel, quoi.
Voilà. Des peintures, des sculptures, les deux.
Des peintures, des sculptures qui bougent, qui s'animent, soit par la manipulation du spectateur, par exemple en tournant une manivelle, ou simplement par le passage d'une personne grâce à des détecteurs de proximité qui mettent en marche les machines.
Donc quand on est dans votre galerie et qu'on a fait le tour avec vous, puisque vous guidez, vous expliquez votre démarche, tout se met en mouvement et tout se met en son aussi, parce qu'il y a énormément de sons dans vos peintures.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Quel est votre lien avec le son et la musique ?
Alors oui, je vais vous expliquer, enfin je vais essayer. Mais déjà, c'est vrai qu'au moment où tout démarre dans ma visite guidée de Musemu, il y a une mise en route de toutes les machines qui se fait... du fait que les détecteurs de proximité entament une routine de démarrage. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Sinon, pourquoi la question, c'est...
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de mettre en musique ? Il n'y a pas que du mouvement dans vos peintures et dans vos sculptures. Il y a de la musique, il y a du son.
Oui. Alors, ça fait partie du point de départ de ça, en fait, de ce que j'ai fait quand j'étais, pas adolescent, mais enfin, au moment de sortir de l'adolescence, j'étais décorateur. Et donc, je suis issu d'une famille de musiciens. Et moi-même, je ne suis pas. Et alors, il y a eu certainement une démarche pour un peu combler cette frustration de ne pas être musicien, dans le fait de créer moi-même des machines qui allaient produire de la musique. Donc j'ai appelé ça des pantinophones parce que il y a des personnages comme des pantins qui sont actionnés par des ficelles. Et grâce à la manipulation d'une manivelle, ces personnages s'animent et en même temps, il y a un mécanisme musical que je fabrique qui va produire de la musique. Plus ou moins, au début, c'était plus proche de bruit que de musique. Mais progressivement, ça s'est amélioré, c'est devenu assez sophistiqué.
Alors, ce qui est intéressant dans votre galerie, c'est que lorsque vous faites la visite guidée, vous nous montrez l'arrière du tableau, c'est-à-dire la conception. Par exemple, dans ce que vous avez appelé les pantinophones, vous nous montrez le mécanisme qui va mettre en branle et la musique et les personnages.
Oui.
Et à chaque fois, vous nous montrez ensuite les moteurs, si toutefois vos tableaux sont mus par des moteurs, vos tableaux ou vos sculptures. Et ensuite, vous nous révélez où est le petit œilleton qui met en marche le mouvement.
Alors, il faut dire qu'il y a un travail de 45 ans. Et donc, il y a toute une évolution dans la réalisation de ces tableaux. Et au début, effectivement, les mécanismes, ils étaient cachés, en fait. On voyait les personnages ou des petits tableaux qui s'animent. mais on ne voyait pas le mécanisme. Et par la suite, j'ai plutôt eu tendance à tout montrer. Et donc, maintenant, les gens me disent souvent « Mais c'est dommage, j'en vois pas le mécanisme. » Alors, bon, maintenant, je montre les mécanismes qui sont peut-être tout aussi attrayants ou attractifs que ce qu'on voit du côté verso, quoi.
Oui, par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler des flippers verticaux que vous avez conçus, qui sont très amusants ?
Oui. Alors, donc j'ai continué le principe de la manivelle qui va actionner une boîte à musique. Et au lieu d'animer des personnages qui étaient des pantins au début, c'est des billes qui circulent qu'on va conduire grâce au mouvement de la manivelle. On va essayer de les guider, ces billes, à certains endroits et c'est des machines très compliquées. C'est complètement mécanique, mais c'est capable, par exemple, de mémoriser le record de la machine. Il y a tout un truc, quoi. Si quelqu'un bat le record, il y a une petite ardoise qui devient disponible pour écrire son nom, etc.
Ce sont des bijoux de mécanique. D'ailleurs, ces petits flippers, vous les avez appelés des billotons, parce que je reparlerai un peu plus tard des titres de vos tableaux et de vos sculptures qui ont un rôle très important. On va d'abord faire une petite pause musicale dont vous nous parlerez après. Merci. Retour sur Rencontre au fil de l'Aude avec Jean-François Scalbert. Nous avons été obligés de couper cette magnifique pièce de Ravel. Pourquoi ce choix, Jean-François ?
Il s'agit d'une sonate de Ravel pour violon et violoncelle, interprétée par les deux frères Capuçon. Et alors, c'est une histoire assez étonnante. Cette musique m'est restée dans la tête sans que je m'en rende compte. Il y a peut-être 2 ans... Tout d'un coup, je me suis surpris à siffloter cet air. Ça me hantait comme ça dans mon cerveau. Et puis, alors j'ai cherché avec les outils informatiques qu'on a actuellement, j'ai essayé de faire deviner, je ne sais plus comment s'appelle ces logiciels. Impossible, donc ça ne marche pas. Et donc je l'ai siffloté, je l'ai enregistré et j'ai envoyé ça à mon frère. Et je lui ai dit, lui, il est musicien, il fait de la clarinette. Et je lui ai demandé si ça lui disait quelque chose. Et il a trouvé tout de suite, oui, c'est Ravel, c'est nos parents qui jouaient ça. Ils jouaient ça dans les années 70, donc il y a un bail, quoi. Et puis, j'ai réécouté. Et c'est quelque chose... Qui me plonge dans une émotion terrible, quoi. Alors, mes parents étaient musiciens et dans leur histoire, la musique, c'est complètement lié à leur histoire de couple. Ils étaient, on va dire, fusionnels par rapport à la musique. Et c'est peut-être pour ça que je suis pas musicien moi-même, parce que il y avait un espèce de niveau inatteignable là-dedans.
Donc vous avez choisi l'art, L'art pictural, plastique en général. Et vous disiez tout à l'heure que vos premiers sujets étaient des sujets plutôt, on peut les qualifier de naïfs, les pantinophones.
Oui.
Et à un moment, quand on se déplace dans votre galerie, on voit bien le passage à quelque chose de plus surréaliste. Je me souviens vous avoir dit à un moment, mais on dirait une sculpture de Calder ou... Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de ne pas faire ça seulement comme un passe-temps, mais d'en faire ce qui vous prend tout votre temps, finalement?
Alors là, il faudrait un psychiatre autour de la table, parce que c'est au moment du décès de mes parents, qui étaient très rapprochés. C'est à partir de là que je me suis affranchi, finalement, du besoin de faire de la peinture figurative.
Mm-hmm.
De devoir prouver que je sais dessiner. Et donc, il y a un moment, en 86, où j'ai commencé à m'exprimer autrement. Il y a vraiment une rupture. Par contre, il y a aussi une progression progressive, on peut dire, dans le fait que, au fur et à mesure que j'ai fait mes machines, j'ai appris aussi les différentes techniques, et je me suis aussi peut-être amusé à imiter des peintres, à essayer de comprendre tous les mouvements artistiques qu'il y a pu y avoir dans la peinture, en passant par justement vous l'avez évoqué, le surréalisme.
Oui,
Donc j'ai eu ma petite période surréalisme, ma petite période impressionniste, même cubique à un moment. Et voilà, bon, je me suis aussi affranchi de tout ça pour arriver à quelque chose où je me pose plus de questions, je fais simplement ce que je ressens sur le moment. Et c'est essentiellement l'art cinétique et optique.
Qui vous
intéresse actuellement, qui m'intéresse actuellement.
On trouve de la peinture, on trouve de la sculpture, je l'ai dit. On trouve aussi des matériaux aussi étranges que du riz.
Oui.
Il y a une de vos, je ne sais pas, une de vos œuvres, je vais dire, je ne peux pas dire une sculpture, je sais pas. Un plateau de riz, je ne vais pas dévoiler, il y a un plateau de riz qui se meut. Alors, vous avez essayé de me faire trouver comment, je n'ai pas trouvé, et quand vous me l'avez expliqué, j'avoue que je ne suis pas sûre de l'avoir compris, mais c'est fantastique de voir ce plateau de riz creuser un sillon. Dans le riz se creuse un sillon,
oui.
Alors par un rouage, un engrenage, des fils, des poulies, des ressorts, je ne sais exactement. Et on peut dire qu'en tant que spectateur, on est impliqué. Ce n'est pas un musée dans lequel on est face aux œuvres sans bouger. On vit vraiment une expérience sensorielle qui nous meut, nous aussi.
Mm-hmm.
Et si on est plusieurs, ce qui m'est arrivé à deux reprises dans votre galerie, si on est plusieurs, les échanges se font, parce que les perceptions, optiques notamment, sont différentes selon les uns et les autres.
Mm-hmm.
Voilà. Et il y a une sculpture dont je voudrais parler dans votre galerie, qui est la très grande sculpture qui traverse entièrement la galerie.
Ah oui.
Est-ce que vous pouvez décrire son fonctionnement, décrire ce qu'on voit
Alors là, c'est extrêmement visuel. Oui, depuis quelques années, je suis très attiré par les moirages, les effets de moiré. Et donc, c'est une machine qui pourrait s'apparenter un petit peu à un téléphérique. Il y a des rails qui se contorsionnent et qui font que deux véhicules... suivent ce rail par un effet de surf, un peu de surf sur des vagues. Et ces véhicules donc, se déplacent latéralement, en haut, également verticalement, et créent des effets de moiré par rapport au fond qui est une sorte de texture de zèbre. Et voilà. Donc, je sais plus.
Donc, une œuvre impressionnante par sa taille, je sais plus.
Je sais plus le titre, voilà.
Alors, moi non plus.
Téléfébrile. Voilà.
Alors, merci de parler des titres parce que il y a beaucoup de poésie dans vos titres. Alors, j'en ai retenu deux ou trois. Concentricotage, carré mouvement, zébréole, der pastiche tourneur, enfin. Tout le jeu, c'est visiter la galerie avec vous et ensuite la revisiter avec la liste des titres qui est très amusante et qui est en lien avec, bien entendu, les œuvres et qui sont très poétiques, très ironiques, très amusantes, peut-être presque comme le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, dont vous pouvez nous parler maintenant avant qu'on l'entende.
Oui, c'est une chanson de Gainsbourg. Je suis très fier d'avoir adoré Gainsbourg quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire à une époque où il n'était pas tellement connu, quoi. Et j'ai toujours adoré ce gars-là, son côté écorché vif et en même temps extrêmement poète, poétique, un personnage incroyable, quoi. Et moi, j'ai tout de suite été sensible à sa voix, son style. Et provocateur aussi, mais c'est curieux parce que à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il est extrêmement populaire. Et pourtant, si Gainsbourg arrivait aujourd'hui dans The Voice ou je sais pas, je pense qu'il serait éjecté
immédiatement. Alors on écoute ce titre que vous avez choisi.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous,
Melody Nelson.
Mais elle en avait. Et ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, que ça.
Melody Nelson.
Une adorable garçonne. Et si délicieux enfant. Que je n'ai que n'ai qu'un instant. Oh, ma mélodie, ma
Melody Nelson,
aimable petite conne. Tu étais à condition sine qua non.
Nous retrouvons Jean-François Scalbert juste après cette pause musicale choisie par lui et dont il va nous parler.
Alors, par rapport à cette chanson, il faut aussi rendre hommage à Jean-Claude Vanier, co-auteur voilà, tout le disque de Melody Nelson. Et c'est un gars absolument génial, en fait.
Merci pour cet hommage.
C'est un gars qui est toujours à l'ombre, dont on ne parle jamais. Et par rapport à la chanson et la musique en général, j'ai une façon d'apprécier les choses un peu particulières. Parfois, on me demande, mais tu sais de quoi ça parle ? Non, je ne sais pas trop. Non. Melody Nelson, je sais de quoi ça parle, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, j'écoute Gainsbourg comme j'écouterais les Beatles sans comprendre les paroles. Et même la musique, finalement, je ne la comprends pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du... quel style, l'influence de quel style. En fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est juste l'émotion, le climat que ça suscite. Et j'aime simplement... ressentir ça comme ça, sans intellectualiser.
C'est un petit peu la même démarche que vous avez aussi dans votre travail de plasticien. C'est-à-dire
oui.
De ne pas passer par l'intellectuel,
oui.
Mais de passer vraiment par le manuel. Je vous sens vraiment comme quelqu'un qui fabrique, qui tâtonne, qui expérimente.
Ouais, complètement. Oui.
Et
oui.
Est-ce que, par exemple, en ce moment, vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez ? Parce que je sais qu'à chaque fois, vous êtes sur une nouvelle machine. Ou en tout cas, à chaque fois que je suis venue à Musemu, il y avait une nouvelle machine. Donc en ce moment, vous êtes en train de réfléchir sur quoi ?
Alors, c'est très compliqué. Et chaque fois, ça se passe autrement. Là, je suis sur une machine, c'est une peinture, une machine qui est peinte. On va dire c'est un bout de bois, quoi. Un bout de bois de 50 par 70 cm qui est peint et qui me plaît. Je l'aime bien. J'en suis fier de la façon dont je l'ai peint. Mais je veux lui attribuer un mouvement, quelque chose. Alors j'essaye des trucs. J'ai essayé un objet qui se déplace et qui va créer des sons grâce à son déplacement. Et franchement, j'arrive à rien. Ça fait une semaine que je me bats contre ce truc-là. Et alors peut-être je vais abandonner. Je sais pas. Je vais peut-être passer à autre chose. Franchement, je sais pas.
Bon, le tâtonnement est important, en tout cas dans votre travail.
Oui. Bon. J'ai tendance à réinventer la roue un peu chaque fois, enfin des trucs.
Bon, c'est ce qui fait que c'est extrêmement intéressant. Avant d'expliquer à nos auditeurs comment faire pour venir voir vos travaux, parce qu'en entendre parler c'est bien, mais les voir c'est encore beaucoup mieux. Je crois avoir entendu que vous n'aviez pas vraiment l'accent au doigt.
Non, je pense pas.
Alors, dites-nous un petit peu d'où vous venez, Jean-François.
D'ailleurs, j'ai pas d'accent.
Non, rassurez-moi. Bien sûr, excusez-moi, oui. Donc,
j'ai passé quasiment toute ma vie dans le Jura suisse. Donc, certains croient que je suis franc-comtois ou belge, je sais pas. Non, je suis suisse d'adoption. Donc j'ai les deux nationalités parce que je suis né quand même à Paris. Donc mes parents étaient français et donc mes parents sont venus en Suisse quand j'avais 10 ans. Et là, je suis resté toute ma vie jusqu'à ce que je me décide à partir avec mon épouse actuelle. Et voilà, on a fait un passage au Portugal et maintenant nous sommes dans l'Aude.
Alors, il faut dire à nos auditeurs que vous êtes très créatif, donc il y a très régulièrement de nouvelles machines, que votre galerie, bien que grande et spacieuse, commence à avoir besoin de davantage d'espace et que vous lancez un petit peu un appel là. Vous aimeriez exposer de manière définitive, c'est-à-dire
permanente,
une ville ou un village qui aurait un espace et qui voudrait avoir un musée d'art cinétique, ce qui est quand même d'une qualité exceptionnelle. Je fais aussi un appel aux élus qui nous entendent de vous contacter parce que vous avez envie que cette collection soit montrée dans de meilleures conditions et à un plus grand nombre, c'est-à-dire avec des horaires d'ouverture plus importants. Certaines de vos pièces ont été montrées au musée Gramont à la galerie Gramont, pardon, à Fangeaux l'année dernière. Et c'est ainsi que certaines personnes sont venues vous rencontrer chez vous. Mais vraiment, là, c'est un appel que vous lancez.
Oui. Ce que je constate, c'est que les gens qui viennent visiter ma galerie sont toujours très enthousiasmés. Et donc, je me dis que c'est quelque chose qui doit perdurer. Et là, c'est quand même, c'est un peu étriqué, l'endroit, ça fait une centaine de mètres carrés. Et par rapport aux 200 pièces que j'ai à peu près, ça devient trop petit, quoi. Et donc, c'est la principale raison. Ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que moi, je travaille, j'ai pas forcément envie de toujours faire le guide. Voilà quoi. Donc oui, il faudrait un local dans l'idéal qui fasse à peu près 250 mètres carrés quoi.
Oui, et avec la possibilité pour une collectivité territoriale de mettre en valeur votre travail.
Oui.
Alors, en attendant les nombreux coups de fil qui vont arriver pour nous dire nous souhaitons accueillir toute l'œuvre de Jean-François Scalbert, il est possible aux individuels, aux personnes, de venir à Cambieure, donc dans votre galerie Musemu, galerie d'art cinétique. Pour cela, est-ce que vous voulez bien donner le numéro de téléphone où on peut vous appeler si jamais on souhaite venir le visiter?
Donc c'est le 06 83 77 72 11. Je répète pour les Belges et les Suisses, 06 83 77 72 11.
Et donc, je vais donner l'adresse du site où on peut déjà, un site qui est parfaitement bien réalisé puisqu'on voit vos œuvres en mouvement, ce qui ne remplace pas la visite néanmoins, www.jfscalbert, comme Jean-François Scalbert, jfscalbert.com.
Merci, oui.
Et Jean-François, voulez-vous rajouter quelque chose ?
Donc c'est mieux de venir sur rendez-vous, parce que je ne suis pas forcément toujours disponible. Et je précise simplement que c'est forcément des visites guidées, parce que justement l'endroit est un petit peu étriqué et ça nécessite donc quand même de rester groupé. Et voilà, ça nécessite une visite guidée.
Quoi. Et néanmoins, une visite avec peu de personnes, puisque la situation sanitaire l'impose.
Et de préférence, quand même, un minimum de 4 personnes, 4-5 personnes, c'est mieux.
Quoi. J'ai envie de rajouter, juste avant qu'on se sépare, Jean-François, si j'avais des enfants, je les emmènerais, parce que c'est fascinant. Et l'art cinétique, c'est un art qui plaît à l'enfant qui est en nous, me semble-t-il.
Moi, je n'ai jamais été adulte dans ma vie, donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre à ça.
Merci Jean-François et à très bientôt. Merci.
Merci à vous.